Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi en quête d'une nouvelle majorité face au rejet de sa coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Claire Morin-Gibourg et notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba. Au Cameroun, quelques milliers de grands électeurs ont voté dans le calme dimanche pour les premières élections régionales du pays en scrutin boycotté par l'opposition qui estime qu'il ne changera rien, ni politiquement, ni pour le conflit séparatiste qui ensanglante les régions anglophones. L'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever, a déclaré dans la soirée Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Au Togo, deux membres d'un important mouvement de l'opposition, dont l'arrestation a provoqué une vague d'indignation au sein de l'opposition et de la société civile, ont été placés en détention. C'est ce qu'a indiqué dimanche le procureur de la République, Esso Lissam Poyodi. Les deux, Brigitte Adia Magbo Johnson et Gérard Diossou de la DMK, Dynamique Monseigneur Podzoro, ont été présentés dès la clôture de l'enquête au procureur de la République qui a procédé à l'ouverture d'une enquête judiciaire et ils sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de groupement de malfaiteurs, a indiqué dans un communiqué, le procureur, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Plus de 15 millions de Ghanéens sont attendus aux urnes ce lundi pour élire leur président dans un duel où s'affrontent le chef de l'État sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Les rues d'Accra étaient calmes dimanche au terme d'une campagne sans grand enthousiasme et ternie par la crise du coronavirus et le fort ralentissement de la croissance économique. Les États-Unis continuent d'enregistrer un nombre très élevé de contaminations quotidiennes au coronavirus dans l'attente des premières vaccinations de masse déjà lancées en Russie est prévu à partir de mardi au Royaume-Uni. Ils viennent de traverser l'une de leurs pires semaines d'épidémie et les responsables sanitaires ont alerté sur la nécessité de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque. Au lendemain d'un nouveau meeting du président Donald Trump où très peu de ses partisans en avaient. Le futur sera sombre ces 6 prochaines semaines, a déclaré l'influent ancien chef de l'agence des médicaments Scott Gottlieb. Les gens doivent se protéger, a-t-il ajouté, prédisant un possible bilan de 400 000 morts fin janvier. Depuis 2 semaines, le nombre quotidien de décès aux États-Unis est régulièrement supérieur à 2000 comme au pic de la première vague du printemps et depuis 5 jours dépasse les 2500 morts par jour du jamais vu. Par ailleurs, le président Donald Trump a annoncé dimanche que son avocat personnel, Rudy Giuliani, était positif au COVID-19, dernier en date des nombreux membres du cercle rapproché du président américain, ou peut porter des masques à être frappé par le virus. Au Venezuela, le parti du président Nicolas Maduro s'apprête à reprendre le Parlement, seule institution qui manquait à son pouvoir hégémonique dimanche à l'issue des législatives boycottées par l'opposition et qualifiées de mascarade par les États-Unis. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence, est interrogé ce lundi après-midi sur les faits de l'affaire dite des écoutes. la suite de nos informations. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dimanche sur la crise au sein de la coalition au pouvoir. Dans un discours retransmis à la télévision nationale, il a annoncé devoir rechercher une nouvelle majorité. Claire Morin-Gibourg nous donne des détails.
Le président Félix Tshisekedi a annoncé avoir nommé un informateur chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle majorité est nécessaire, selon le chef de l'État, pour faire face au rejet de la coalition au pouvoir avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Le président Tshisekedi a agité la menace d'une dissolution de l'Assemblée en cas d'échec au nom de l'union sacrée qu'il souhaite. J'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander une majorité. Félix Tshisekedi a mené des consultations politiques tout le mois de novembre avec les forces politiques et des représentants de la société.
L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, a évoqué dimanche son retour en Côte d'Ivoire aux côtés de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le point avec Michel Joseph.
Une porte de retour vers Abidjan s'ouvre pour nous, écrit Charles Blé Goudé dans un communiqué, ajoutant que le retour de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo pourra, je le cite, grandement contribuer à l'apaisement de la situation sociopolitique altérée. Monsieur Blé Goudé salue l'acte républicain et fraternel des autorités ivoiriennes. L'ancien président Laurent Gbagbo a annoncé vendredi, par le biais de son avocate, avoir obtenu un passeport et espérer rentrer en Côte d'Ivoire en décembre. Charles Blé Goudé a été, comme l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, acquitté de crimes contre l'humanité en première instance par la Cour pénale internationale. Depuis, il est en liberté conditionnelle à La Haye et attend un éventuel procès en appel. Charles Blé Goudé était l'un des membres les plus controversés du clan Gbagbo, surnommé le général des rues, pour sa capacité à mobiliser les partisans de l'ex-président ivoirien. Ses détracteurs et les ONG internationales le considèrent comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts.
Négociateurs britanniques et européens ont entamé dimanche deux jours de discussions aussi intenses qu'incertaines. Ces négociations sont considérées comme une dernière chance de trouver enfin un accord commercial post-Brexit après 8 mois d'impasse. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Ce nouvel effort de 48 heures a été décidé samedi soir par le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le temps est de plus en plus compté puisqu'un éventuel accord commercial devra encore être ratifié par les parlements britanniques et européens avant d'entrer en vigueur le 1er janvier. L'Allemagne a rappelé qu'elle n'accepterait pas un accord à n'importe quel prix. Selon un diplomate européen, la question de la concurrence est désormais la plus difficile. Les pourparlers avancent lentement et la probabilité de trouver un compromis d'ici lundi soir est faible. Cette nouvelle séquence de 48 heures ne sera peut-être pas la dernière, tant la saga du Brexit a été riche en rebondissements. Faute d'un accord, les échanges entre Londres et l'UE se feront dès le 1er janvier 2021 selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonyme de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc économique en plus de celui lié à la pandémie de coronavirus.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le FPM, un fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, a signé un partenariat pour 1,5 million de dollars en faveur de l'institution de microfinance Baobab. Ce prêt est octroyé en vue de refinancer les micro, petites et moyennes entreprises touchées par la crise du coronavirus. Pendant cette période, la Banque centrale a demandé aux institutions financières de décaler les échéances de remboursement des crédits portant un coût sur le secteur financier. Le groupe français Utaxeram et l'allemand FEV Group ont créé une société partenaire pour ouvrir le premier centre d'essai automobile en Afrique à Ouedzem au Maroc. Le centre permettra de tester l'endurance et la fiabilité des véhicules sur une piste de 4 km. Le choix du Maroc s'est imposé en raison de la politique dynamique menée par le Royaume pour faire de ce pays un pôle mondial automobile. La Namibie a mis aux enchères 170 éléphants en raison de la sécheresse et de l'augmentation de leur nombre dans le pays. Un encart publicitaire diffusé dans le quotidien gouvernemental New Era explique que ces mammifères seront vendus à toute personne du pays ou à l'étranger qui pourrait répondre aux critères stricts, dont des installations de quarantaine et un certificat de clôture pour la propriété où les éléphants seront gardés et entretenus.
Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, la zone B de l'UFOA démarre sa qualification pour la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Mauritanie en 2021.
Tout à fait. Et c'est Porto Novo qui accueille ce tournoi qualificatif. En ouverture, le Bénin tombe face au Niger battu 1-0. Mauvaise entame donc pour les poulains de Mathias Deguenon. Dans l'autre match du groupe, le Togo et le Burkina n'ont pas pu se départager, score 1-1. Score identique pour le seul match du groupe B entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Prochaine journée demain mardi et dans la poule A, le Bénin joue le Togo et aura l'occasion de se relancer. Le second match mettra aux prises le Niger au Burkina Faso.
À présent, les matchs retour du tour préliminaire des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, le Racing Club d'Abidjan sauve l'Asco du Kara et affrontera Oroya de Conakry au second tour. Ça passe aussi pour les Sénégalais de Tunguet qui joueront au prochain tour le Raja de Casablanca. L'aventure continue également pour les Tanzaniens de Simba, tout comme les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Par contre, le champion du Burkina Faso, Raimo, a été sorti par les Nigériens d'Enimba. Déçu, l'entraîneur du club de Ouagadougou, Djefare Lengane, se confie à notre correspondant Kader Traoré.
Je suis déçu par rapport à l'élimination, mais je suis content par la prestation que les enfants ont fait ce soir. On n'a pas démérité. Il y avait la place pour se qualifier. Ça, je me projette vers l'avenir. Nous sommes inscrits dans un projet. Voilà, notre projet, c'est de comment faire pour que dans 3 ans, on puisse rentrer dans les phases de foule de la Coupe d'Afrique. Notre deuxième objectif, c'est d'être champion du Burkina Faso. Le troisième objectif, à long terme, c'est d'être parmi les grands d'Afrique. On a bien commencé le projet. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs.
En Coupe de la CAF, Salitas FC du Burkina a obtenu sa qualification aux dépens d'Ashanti Gold du Ghana.
Après leur nul à Obuasi, les Colombes de Ouagadougou se sont imposés chez eux par 2-1. On retrouve une fois encore Kader Traoré pour le point du match.
La formation burkinabé n'a pas mis assez de temps pour se mettre dans le bon sens de la qualification. 12e minute, Olivier Boissy sur une tête plongeante ouvre le score. À la 44e minute, le même buteur sénégalais, Olivier Boissy, permet à Salitas de mener par 2-0. Avant d'aller à la pause, les Mini et Do Boissy réduisent la marque par David Sanda. 2-1, ce sera d'ailleurs le score de cette rencontre qui qualifie d'ailleurs Salitas pour les 16e de finale de la Coupe CAF. Abbas Ouedraogo, entraîneur adjoint de Salitas FC.
On a travaillé, on a cru vraiment on peut rien dire. C'est juste féliciter les joueurs vraiment qui ont fait un travail formidable. Voilà, ils ont respecté le consigne vraiment. Burkinabé, c'est la patrie ou la mort. C'est ça, on se dit dans le verset, la patrie ou la mort.
La joie des Salitasiens est tout à fait légitime car l'équipe a montré beaucoup d'envie et de solidarité dans le jeu. Herman Nikema est le capitaine de la formation burkinabé.
Notre force était les jeux rapides. Le coach a donné des instructions. Comme ils ont voulu presser haut, on a reculé pour pouvoir les prendre en contre-attaque. Donc et voilà, ça a payé. 2 contre 2 buts.
Pour les 16e de finale, Salitas FC sera face à la formation de Al-Mal Atbara du Soudan. Ce sera le 23 décembre à Khartoum et le 5 janvier prochain à Ouagadougou. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Autre qualifié, les Nigériens de la Gendarmerie Nationale, les Camerounais de Coton Sport de Garoua. En revanche, ça cale une fois encore au premier tour pour les Congolais de Manema Union. Le prochain tour aura lieu du 18 au 20 décembre prochain, match retour une semaine plus tard.
Élisée, à moins de 2 mois du CHAN qui va débuter le 16 janvier 2021, un mini-tournoi sera organisé.
Exactement, Idrissa. Et ça va se jouer à Yaoundé avec la participation de 4 nations qui sont qualifiées pour cette compétition continentale, à savoir le Cameroun, le pays hôte, la Zambie, l'Ouganda et le Niger. Ce tournoi, qui aura lieu du 1er au 8 janvier 2021, va constituer une belle répétition, une semaine avant l'entame du CHAN, notamment sur le plan organisationnel et les mesures strictes à respecter en raison du coronavirus.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, le président Félix Tshisekedi a rendu compte à la nation des conclusions qu'il tire des consultations qu'il a lui-même initiées. Dimanche, dans un discours à la Nation, M. Tshisekedi a constaté le rejet de sa coalition au pouvoir avec son prédécesseur Joseph Kabila et annoncé la recherche d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée, dominée par les fidèles de M. Kabila. De Kinshasa, notre correspondant Valdo Simon Yamba.
Compromis. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu devant la nation congolaise ce dimanche pour rendre compte des conclusions de consultations qu'il a menées tous les mois de novembre avec les forces politiques et des représentants de la société, les FCC, les Fonds communs pour le Congo, rassemblement des partis pro-Kabila, a largement boycotté ces consultations. Félix Tshisekedi.
Au confirmement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition CACH-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État.
Le chef de l'État constate donc l'échec de cette coalition qui avait permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire agitée du Congo. Ses interlocuteurs, reçus lors des consultations, lui ont dit qu'il fallait mettre fin à l'accord de coalition et dissoudre l'Assemblée nationale.
J'en ai retenu que, d'une part, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'aviez porté à la magistrature suprême et que, d'autre part, il n'a pas été capable de répondre aux attentes et aux aspirations de notre peuple. Vous avez un rôle immense pour aider à corriger les excès du passé.
Ainsi donc, les solutions idoines s'imposent, a priori, la recherche d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour repartir des plus belles avec la mise en place d'un nouveau gouvernement.
En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale.
Pour Norbert Yambayamba, consultant et cadre de l'UDPS, le discours du président apporte une solution au problème qui bloque le Congo.
Je voudrais saluer le discours du président de la République qui visiblement apporte une solution par rapport à la situation du Congo. Le pays est bloqué, la coalition qui est majoritaire, FCC-CACH, n'a pas permis naturellement de travailler dans la perspective de donner des solutions. C'est que très clairement, cette coalition a des objectifs divergents.
Mais l'ancien porte-parole du président Kabila, Lambert Mende, a redouté, je cite, des remèdes pires que les mâles. Pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ces débats, a-t-il regretté, sur les antennes de la radio Top Congo. Le président Tshisekedi a conclu son message avec, une nouvelle fois, un appel à l'union sacrée de la nation. Kinshasa, Valdo Simon Yamba, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Kisangani, sur 97.7 FM.
Au Mali, le colonel Malik Diaw, numéro 2 de la junte qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août, a été élu à la tête du Conseil national de transition, le CNT. Cet organe législatif qui compte 121 sièges et regroupe notamment des représentants de partis politiques, de la société civile, de syndicats et des militaires, a élu le colonel Diaw par 111 voix au cours de sa session inaugurale samedi à Bamako. Des organisations comme le M5-RFP dénoncent cette mise en place du CNT, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est le Centre international de conférence de Bamako qui a accueilli les 121 membres du Conseil national de transition CNT pour cette session inaugurale. Amina Fofana, membre du CNT.
Parce qu'auparavant, des gens comme nous qui veulent se battre pour que les intérêts de la nation soient au-dessus de tout étaient écartés. Ce que ça représente pour moi, ça incarne le changement. Donc on est là pour se battre, pour apporter ce changement tant attendu par les Maliens.
Certains syndicats, comme celui des enseignants, sont membres du CNT. Samou Diadio Fofana.
Le pays est dans une situation très critique. Il s'agit du Mali nouveau qu'on essaie de répartir sur de nouvelles bases. Nous sommes là pour poser les jalons de ces Mali nouveaux-là. Nous osons espérer que nous serons à même porter satisfaction à ces défis pour rendre un peu la quiétude, n'est-ce pas, à ce beau pays-là.
L'imam Oumarou Diarra est membre du comité stratégique du M5-RF, mais il a accepté de siéger au Conseil national de transition. Il a même donné procuration au colonel Malick Diaw pour l'élection du président.
Par rapport à Malick Diaw, on a nommé beaucoup d'anciens députés qui nous ont combattu pendant la lutte. Moi, je ne connais pas tous ceux qui sont là-bas. Mais ceux que je connaissais qui étaient de l'ancien régime, moi, j'ai envoyé une procuration ce matin en attendant qu'on éclaire cette situation et de prendre une décision de démission. Et elle peut arriver à tout moment.
Cette décision de l'imam Diarra est contestée par cette militante du M5-RFP.
Normalement, M. Diarra ne devait en aucun cas faire une procuration à M. Malick Diaw, qui est devenu aujourd'hui le président du MD. Soyons logiques. Ce que M. Oumarou Diarra m'a dit, pour moi, ça ne me convient pas du tout.
Après la désignation d'un président et d'un gouvernement transitoire, le CNT censé assumer la lourde responsabilité de voter des textes capitaux pour le pays est la dernière institution investie par les militaires. C'est pour cela que les décrets de nomination seront attaqués par le M5-RFP. Shogel Koukala Maïga, membre du M5-RFP.
Le M5-RFP se réserve le droit d'attaquer les décrets devant les juridictions compétentes. Nous nous sommes battus des mois durant contre la violation permanente de la Constitution et des lois du pays. Contre ceux qui ne voulaient pas du changement, dont nous constatons malheureusement en grand nombre et massivement la présence au sein du CNT.
En tout cas, lors de la séance inaugurale, sur les 118 membres présents, 111 ont voté pour Malick Diaw contre 7 bulletins nuls. Il était le seul candidat au poste de président du CNT. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, les cas actifs de COVID-19 continuent d'augmenter depuis plusieurs jours, faisant craindre une deuxième vague. Le taux de positivité des tests réalisés, qui se situait à environ 1% il y a peu, vacille maintenant entre 6% et 7%, ce qui est très inquiétant, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi économique et social, selon les experts consultés par notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Le relâchement noté au niveau des mesures de prévention édictées, avec le non-respect du port du masque et la distanciation physique, mais aussi l'ouverture des frontières aériennes et l'arrivée de faux tests de COVID-19 amenés sur le territoire sénégalais par des voyageurs entrants, sont parmi les facteurs à prendre en compte dans la remontée des cas de COVID-19. D'après le docteur Ousmane Gueye, directeur du Service national de l'éducation et de l'information à la santé. Cependant, ce membre du Comité national de gestion des épidémies affirme qu'ils ont une stratégie dynamique qui permet de s'adapter à la situation.
Le Sénégal a beaucoup de centres de traitement, pratiquement dans toutes les régions, mais ces centres étaient allégés. Aujourd'hui, on va reprendre effectivement le travail à ce niveau. Donc, on est fin prêt pour effectivement faire face à cette nouvelle vague. Bon, mais on souhaiterait ne pas être débordé. Comme tout système de santé, s'il y a énormément de cas, on risque d'être débordé. Mais je pense que quand même, si les populations reviennent à ce que nous faisions, c'est-à-dire le respect des gestes barrières, je pense qu'on peut s'en sortir facilement.
Après avoir sonné l'alerte il y a une semaine, le président Macky Sall a demandé un renforcement des contrôles systématiques du respect des mesures barrières. Le ministre de la Santé a lui évoqué un possible retour du couvre-feu. Mais les Sénégalais accepteront-ils de vivre une nouvelle fois ces restrictions? Ce sera une question de bon sens, selon Dr Moustapha Sey, chercheur au laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Institut fondamental d'Afrique noire.
Elles vont faire la balance entre
de Pop Santé, parce qu'en plusieurs de causes, les populations avaient plus peur pour leur santé. Au début, avaient peur pour la santé de leurs proches. Et donc, ce sentiment-là de peur-là avait joué en faveur du respect. Donc, on peut relativiser des mesures barrières qui avaient été édictées. Mais ça, c'était dans le sens où la maladie était inconnue. Je pense qu'il serait difficile, au vu de la situation économique du pays, que l'État puisse privilégier des mesures barrières qui vont aller dans le sens de compromettre la croissance économique qui est déjà très éprouvée.
L'économie, qui a tenu tant bien que mal lors de la première vague de Covid-19, ne pourra certainement pas faire face à une nouvelle flambée. Maïssa Babou, économiste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est catégorique. Ce sera une catastrophe pour l'économie sénégalaise, car l'État ne pourra pas de nouveau mobiliser des subventions.
Si on retient les leçons de la première vague, on se rendra compte de la fragilité de l'économie sénégalaise. J'ai l'habitude même de dire que Covid a bon dos, mais nous sommes quand même une économie qui n'est pas équilibrée, une économie qui vraiment n'est pas debout et qui par conséquent pour un rien peut avoir des problèmes. Plus de 40 000 chômeurs, 7 000 entreprises en faillite. Moi, je crois que si on n'a pas le temps de se relancer, et ce sera une mort certaine pour une très, très bonne frange de la population.
Loin d'être alarmiste, les experts jugent qu'une deuxième vague pourrait être fatale à plusieurs secteurs au Sénégal. L'économie, qui actuellement est en souffrance, pourrait être davantage secouée. Et cela va se répercuter sur tous les autres secteurs et ainsi augmenter les disparités dans la société. Sayedina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La nouvelle vision de développement du Cameroun entre 2020 et 2030 suscite de l'enthousiasme dans les rangs du gouvernement, pendant que le secteur privé et certains experts émettent des réserves sur la conduite efficace de cet outil de planification par lequel le Cameroun ambitionne de devenir un nouveau pays industrialisé. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les objectifs du gouvernement camerounais sont clairs sur la période 2020-2030. Bitumer plus de 6000 km de route, améliorer le taux d'accès à l'eau potable à 60%, garantir l'accès à l'éducation primaire à tous les enfants en âge de scolarisation, porter le taux de chômage à moins de 25% et atteindre une croissance annuelle de 8,1% dans les 10 prochaines années. Alamin Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il s'agit de veiller à ce que l'allocation des ressources dans notre économie aille vers les secteurs les plus productifs. Il nous faut des ressources humaines de qualité, en quantité, pour satisfaire les besoins tant à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur. Nous voulons faire également la promotion de l'emploi et l'insertion économique de nos jeunes. De nombreuses réformes au niveau des finances publiques ont été réalisées, mais doivent se poursuivre. Parce que sans réforme, nous ne pourrons pas suffisamment attirer le secteur privé.
Mais le secteur privé ne partage pas l'enthousiasme du gouvernement. Au cours de la cérémonie de présentation de la stratégie nationale de développement, Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, a déclaré, citation, « Ce document souffre d'une absence de priorisation clair. Il a trop de plans, il manque de réformes à l'instar de la fiscalité et le budget de l'État reste un éléphant difficile à dégraisser. » Fin de citation. Pourtant, le gouvernement envisage accroître la commande locale à au moins 60% en biens et services afin de favoriser l'émergence du secteur privé, car jusqu'ici, l'économie camerounaise a eu une forte propension à importer. Professeur Roger Tsafak Nanfaso est économiste et recteur à l'université de Tchang, dans la partie occidentale du Cameroun.
On peut avoir toutes les stratégies du monde que l'on veut, mais si vous n'avez pas un système qui dit qui fait quoi, quand ou comment, avec quels livrables, quels attendus, à quel moment, en combien de temps, et que ce soit quelque chose de immédiatement modifié, ça pose des problèmes.
L'universitaire et experte en gouvernance publique, professeur Viviane Douélé, craint que la non-prise en compte de certains aspects de management plombe la bonne conduite de cette nouvelle boussole de développement du Cameroun.
Nous pensons qu'à côté de la discipline budgétaire qui a été présentée comme hypothèse de base qui porte cette stratégie, il faudrait qu'il y ait des hommes qui accompagnent la stratégie. Il y a un leadership qui doit être porté, qui doit être visible.
Le taux de croissance du pays s'est situé à 2,3%, très loin du taux annuel de 5,5% envisagé pour cette période. Yaoundé, Emmanuel Chimoutap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa.